C'est un plaisir de vous voir tous, mes frères. Commençons paragraphe une question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Cet arbre dans le jardin d'Éden, vous pensez au péché. Évidemment, Adam et Ève ont péché lorsqu'ils en ont pris, ils ont désobéi à Dieu. Et vous pouvez penser à toutes les mauvaises choses qui en ont découlé. Si le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tel qu'il est, c'est parce qu'Adam et Ève ont mangé de cet arbre. Pensez à l'échec. Ils ont définitivement échoué et ont mangé de cet arbre. Et pensez à la punition. En fin de compte, ils ont été chassés par Dieu du jardin d'Éden. Mais cet arbre peut représenter beaucoup de choses. La voie de ce monde, tout cela est très négatif. Mais regardons l'arbre d'une autre manière. Tournons-nous vers la Genèse 1. C'est le tout début de la Bible. Nous commencerons à entrer et à sortir de la Genèse aujourd'hui, alors vous voudrez peut-être garder votre doigt ici ou un marqueur. Genèse 1 et verset 31. Habituellement, lorsque nous pensons à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous pensons à des choses négatives, mauvaises. Et c'est bien ainsi. Il y a beaucoup de choses qui sont des mises en garde pour nous. Mais regardons les choses différemment. Genèse 1 et verset 31. C'est à la fin de la semaine de la création que Dieu refait la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, tout, et voici que c'était très bon. Le sixième jour, il y eut un soir et un matin, juste avant d'entrer dans le jour du sabbat. Tout avait donc été créé. Le ciel, il recrée la terre, les animaux, toutes ces choses qui ont été créées, l'homme aussi, et tout était très bon. Allez au chapitre 2 et au verset 8. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tous les arbres agréables à voir et bons à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aussi au milieu du jardin. Toutes ces choses étaient bonnes et Dieu a placé ces deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin. Une sorte de point central où Adam et Ève pouvaient le voir. Et au verset 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout était donc très bon, y compris cet arbre. Mais il est clair que les effets de la consommation de cet arbre n'étaient pas bons et qu'ils ont entraîné de nombreuses conséquences néfastes pour Adam et Ève, ainsi que pour le monde d'aujourd'hui. Mais si nous recadrons la façon dont nous voyons cet arbre aujourd'hui, je veux le voir comme une frontière que Dieu a placée là. Et c'était une bonne chose. Cette limite que Dieu avait imposée à Adam et Ève était bonne. Comme tout ce qu'il a créé est bon, cet arbre est bon. Et il l'a placé à un endroit très visible dans le jardin, cet arbre, pour qu'il puisse le voir. Il est au milieu. Pensez à Paris, en France, où la tour Eiffel est bien en vue, et vous savez que vous êtes à Paris et que vous pouvez la voir. Oh, c'est Paris. C'est le point central de Paris. Dans le jardin d'Éden, ce sont ces deux arbres qui étaient le point de mire d'Adam et d'Ève. En traversant le jardin d'un côté à l'autre, ils les ont vus. Frères et sœurs, je vous soumets que nous avons aussi un arbre de la connaissance du bien et du mal au centre de nos vies aujourd'hui. Cet arbre représente les limites que Dieu nous a imposées. Et nous pouvons le voir d'une manière incorrecte ou correcte. Adam et Ève, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, ont écouté Satan et ont commencé à le voir comme une restriction, comme si Dieu était injuste et leur refusait quelque chose. Ils en ont profité et ont péché. Mais nous devrions voir ces limites sous un angle différent. Tous les commandements, le sabbat, la dîme, tout ce que nous faisons dans la loi de Dieu sous une lumière différente. Non pas comme des restrictions ou comme si Dieu était injuste ou nous refusait quelque chose, mais plutôt comme des bénédictions. Nous devrions considérer ces limites comme des bénédictions. Toutes ces choses, ces commandements, ces lois, ces statuts, ces choses que nous faisons dans nos vies sont là pour nous protéger et nous guider et apporter l'abondance dans nos vies, mais aussi pour apporter la vie éternelle en fin de compte. Mais nous devons les voir sous le bon angle. Et nous pouvons les voir sous un mauvais jour. Nous allons donc nous pencher sur l'histoire d'Adam et Ève et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour répondre à la question suivante, comment pouvons-nous nous assurer que nous considérons toujours les limites imposées par Dieu comme des bénédictions? Rapidement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un vaste sujet. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ces deux arbres, pensés à M. Herbert Armstrong au XXe siècle, c'est un sujet qu'il a beaucoup abordé vers la fin de sa vie. C'est une partie importante du plan de Dieu et cela représente deux modes de vie. Donner et recevoir. Cela représente le fait de suivre et de s'appuyer sur notre propre compréhension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de s'appuyer sur la compréhension de Dieu et de se fier à lui et à sa voix. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais comme nous nous concentrons sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et sur les limites placées par Dieu, c'est là que nous allons rester aujourd'hui. Nous parlerons un peu plus tard de l'arbre de vie, mais nous voulons nous assurer que nous n'avons pas une vision corrompue des restrictions ou des limites que Dieu a placées dans nos vies. Je le répète donc. Les limites de Dieu sont des bénédictions, et nous pouvons nous assurer de garder cet état d'esprit en sachant comment Dieu et Satan considèrent ces limites dans nos vies. Dieu a un point de vue et Satan a un point de vue, et nous pouvons commencer à les voir de la bonne manière en les examinant tous les deux. Examinons d'abord le point de vue de Dieu. Comment il voit les limites qu'il a placées et les restrictions qu'il a imposées pour nous. Encore une fois, nous avons déjà vu que tout ce que Dieu a créé est bon, y compris cette situation. Il a dit, « Ne prenez pas de cet arbre pour Adam et Ève. » Il n'a pas retenu quelque chose comme « n'importe quoi, n'importe quoi, tu ne peux pas avoir cela. » C'est parce qu'il savait qu'avec cela, ils prendraient et s'appuieraient sur leur propre compréhension et décideraient eux-mêmes de ce qui est bien et mal, et s'en iraient faire tout ce que l'humanité fait aujourd'hui. Nous le voyons également dans le monde d'aujourd'hui. Mais la voix de Dieu n'est pas restrictive en ce qui concerne les retenues. Elle est abondante et il veut que cela soit très clair, et il l'a fait pour Adam et Ève. Allons à Genèse 2 et au verset 16. Vous l'avez lu tout à l'heure, mais nous allons le relire. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre, « De tous les arbres du jardin, tu pourras manger librement. Et il y a un arbre dont on ne peut pas manger. » Quelle était la taille de ce jardin? Nous n'en savons rien. Mais pensez à tous les différents types d'arbres dont nous nous nourrissons aujourd'hui. Nous les achetons à l'épicerie, mais les pommes, beaucoup d'entre nous les adorent et les mangent. Ajoutez-y du beurre de cacahuète, c'est encore meilleur. Pensez aux poires, aux pêches lorsqu'elles sont vraiment, vraiment mûres, et au jus qui coule sur votre menton. C'est délicieux. Ou encore de très bonnes oranges, c'est inégalable. Bien sûr, elles viennent du sud de la Californie, pas de Floride, mais je suis né ou non dans le sud de la Californie, donc je suis peut-être partial. Mais pensez à tous ces arbres. Tous les arbres, Adam et Ève pouvaient en manger, y compris l'arbre de vie. Dieu a tant, tant donné. Sa voix est vaste et abondante. Et il y a un endroit où Dieu a dit que vous ne pouviez pas avoir cela. Ne mangez pas de cet arbre. mais nous devrions avoir l'état d'esprit de Dieu. C'est expliqué un peu plus en détail dans le psaume 16. Allons-y. Comment Dieu voit les limites dans nos vies et nous les explique. Psaume 16 et verset 11. Tu me montreras le chemin de la vie, ce qui inclut les limites, et vous pensez à un chemin, ils ont des limites et des côtés, montre-moi le chemin de la vie. En ta présence se trouve la plénitude de la joie, vivre à la manière de Dieu apporte la joie, à ta droite se trouvent les plaisirs éternels. Maintenant et aussi éternellement, dans la famille de Dieu. Plaisirs éternels. Joie, plénitude, bénédiction. Tout cela vient de Dieu. Passons au Deutéronome 10, pour en savoir un peu plus sur le point de vue de Dieu, sur la manière dont il considère ses commandements et ses lois, sur ce qu'il veut que nous fassions et que nous ne fassions pas. Deutéronome 10 et verset 12. Deutéronome 10, 12. Dieu parle donc à l'ancien Israël, mais nous sommes l'Israël spirituel et cela peut donc s'appliquer à nous aussi. Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme? Faites ce qu'il dit. Observez les commandements de l'Éternel et ses lois, que je vous prescris aujourd'hui pour votre bien. Ainsi, Dieu a créé tout ce qui se trouvait dans le jardin et a dit que c'était bon, tout ce qui se trouvait dans la création et a dit que c'était bon. Ses commandements, ses limites, ses restrictions qu'il nous impose sont bons. Et nous devons nous en souvenir. Les voies de Dieu sont là pour notre bénéfice et non pour nous limiter. Bien sûr, Satan ne veut pas que nous pensions ainsi. Il utilise de nombreuses tactiques pour déformer cette abondance, tout ce que Dieu nous a donné, et veut que nous pensions différemment et que nous nous concentrions sur ses restrictions. J'espère que vous avez gardé le doigt sur la Genèse. Nous y reviendrons, Genèse 3. Ou marque-page. Genèse 3, verset 1. Commencez à voir les tactiques de Satan. Comment il déforme ce que Dieu nous a donné. Là où une limite peut être considérée comme une bénédiction, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est une limite et apporte des bénédictions. Ne pas faire ce que Dieu a dit. Mais il voyait les choses différemment et voulait qu'Adam et Ève fassent de même. Genèse 3, verset 1. Or le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs, serpent comme Satan, plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Dieu n'a-t-il pas dit que tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin ?»« Je crois que j'ai mal dit. » « Oui, Dieu n'a-t-il pas dit que tu ne mangerais pas de tous les arbres du jardin ?» En posant cette question, Satan commençait à faire penser Ève à toutes les restrictions. Qu'a dit Dieu? A-t-il dit que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres du jardin? Il le déforme, mais il l'amène à penser cela et à se diriger vers ce qu'elle ne peut pas faire. Verset 2. La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger de tous les fruits des arbres du jardin. » Mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'en mangerez point, et que vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voyez donc ce qui s'est passé ici. Satan a exagéré ses restrictions, mais il l'a amené à se concentrer sur l'une d'entre elles. Elle a donc commencé à regarder cet arbre. Le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras point. » Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ève a donc entendu cela et l'a écouté, et elle a continué à se concentrer sur cette restriction, cette limite que Dieu avait placée, et ce, d'une mauvaise manière. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il était un arbre à désirer pour devenir sage. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Adam et Ève entendirent ce que Satan avait dit. Ils ont traité dans leur esprit, ils ont vu cette restriction et ont corrompu cette pensée, où cette frontière est bonne. Je ne devrais pas faire cela parce que cela entraînerait de mauvais résultats. Mais ils ont commencé à la voir, oh, ce n'est pas si mal. Et c'est la méthode de Satan, il veut exagérer les restrictions de Dieu dans nos vies. Il veut que nous nous concentrions sur elle d'une manière incorrecte et que nous dépassions ses limites et fassions ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Nous pouvons aussi avoir ce genre de pensée dans notre esprit, et Satan les y mettra aussi. Pourquoi ne puis-je pas dépenser ma dîme pour ce que je veux? Ou même en cas d'urgence. Les choses sont vraiment serrées ce mois-ci, et cet argent est là, mais Dieu dit que 10% sont pour moi. Il y a là une limite, et vous pouvez commencer à la regarder de la mauvaise manière. En ce qui concerne les divertissements, les choses que vous regardez ou la musique que vous écoutez. Est-il vraiment mauvais de regarder ou d'écouter ce que tout le monde fait? Est-ce vraiment? C'est peut-être une bonne chose. Vous trempez votre pied dans l'eau et cela vous mène à des choses de plus en plus graves. Sabbat, pourquoi ne puis-je pas faire ceci ou cela le jour du sabbat? Est-ce vraiment? Peut-être que ce n'est pas si mal si je fais ceci ou cela. Et cela peut conduire à se demander plus tard si c'est vraiment mal de travailler le jour du sabbat. Je dois vraiment gagner plus d'argent et subvenir aux besoins de ma famille. Ces pensées, ces schémas et ces réflexions peuvent aller dans ce sens. Et elles commencent par des questions, par la remise en question de ces restrictions, en se concentrant sur elles d'une manière incorrecte. Nous pouvons commencer à nous concentrer excessivement sur des choses qui sont hors de notre portée et à les désirer. Parfois, cela peut être, ces décisions peuvent être une question de minutes où nous pouvons désirer quelque chose. Et cela peut devenir un péché, et rapidement. Ces minutes peuvent durer un jour, des semaines ou des années. Ces schémas de pensée peuvent nous égarer. Ils peuvent nous conduire au péché et à la ruine. Frères et sœurs, Satan veut nous faire croire que la voix de Dieu est super petite. Pouvez-vous vraiment ne pas manger tous les arbres du jardin? Pouvez-vous ne rien faire le jour du sabbat? Vous avez probablement entendu certaines personnes dire que vous ne pouvez vraiment rien faire. Pourquoi ne peut-on rien faire le jour du sabbat? Ils exagèrent cette restriction et donnent l'impression que le monde a toutes ces choses qui se passent en dehors de la voix de Dieu. La voix de Dieu est toute petite et minuscule, et le monde est immense. Lorsque Dieu a donné, tout comme Adam et Ève ont reçu tous les arbres du jardin et l'arbre de vie, et une chose qu'ils ne pouvaient pas avoir, nous devrions voir les choses de la même manière. La voie de Dieu est une voie d'abondance et de possession, il y a tant de choses que nous pouvons faire, mais il nous donne quelques restrictions, quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Mais il ne faut pas que cela soit inversé dans notre tête. Frères et sœurs, les limites de Dieu sont des bénédictions. Et nous pouvons nous assurer de garder cet état d'esprit en comprenant le processus de la tentation. Nous en avons déjà vu un peu avec Ève, mais allons-y un peu plus loin, car la tentation suit un schéma prévisible. Et lorsque nous commençons à reconnaître ce schéma et certaines pensées et déclencheurs pour nous-mêmes individuellement, alors nous pouvons apprendre à l'éradiquer. Lorsque cette tentation survient, lorsque ces pensées commencent à se manifester, lorsque Satan met dans notre esprit certaines choses, vous ne mourrez pas. Est-ce vraiment si grave? Lisons encore une fois les chapitres 3 et 6 de la Genèse. C'est un schéma prévisible. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à regarder, qu'il était un arbre à désirer, pour devenir sage, et elle fit tout ce qu'elle fit avant d'agir. Elle en prit du fruit et en mangea, et son mari en mangea aussi. Tout ce processus a commencé par des doutes ou des pensées erronées. Satan a-t-il mis en doute la parole et la bonté de Dieu en posant cette question à Ève? La voix de Dieu est restrictive. Elle est injuste. Il te prive de ce que tu as. Vous pouvez avoir beaucoup plus. Et alors vous pouvez commencer à vous concentrer sur cette restriction. Tout comme Ève l'examinait, « Oh, vous savez quoi? Ça a l'air bien. » Au lieu de le rejeter d'emblée. Et elle a rationalisé ce qu'elle faisait, en écoutant le diable, et finalement elle a agi selon ses pensées, ce qui l'a conduite au péché. C'est un schéma que nous voyons à maintes reprises dans la Bible, une tentation, de mauvaises pensées, et cela conduit au péché. Parfois de gros péchés, parfois de petits. Nous pouvons regarder Caïn. Passons à la quatrième page de la Genèse, quelques pages plus loin. Caïn et Abel présentèrent donc des offrandes. Celle d'Abel fut acceptée par Dieu. C'était une bonne offrande. Caïn a eu une mauvaise attitude, il n'a pas été accepté par Dieu et il n'était pas compte. Genèse 4, 5. Dieu n'eut point d'égard pour Caïn et pour son offrande. Caïn fut irrité, et son visage s'affaissa. Mauvaise attitude, mauvaise pensée. Il était dans une mauvaise attitude et s'est lancé dans un train de pensée. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, tu ne seras pas accepté. Et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. » Si vous continuez à penser ainsi, ce train de pensée, vous allez vous diriger vers le péché et vers un péché encore plus grand. Et son désir sera pour toi. C'est la personnification du péché. Le péché est là, il est à la porte, il est prêt. Accroupi pour bondir. Et lorsque nous avons de mauvaises pensées et de mauvais trains de pensée, c'est là qu'il peut nous mener. Au péché. Et finalement, Caïn a tué son frère à cause de cela. Il n'a pas arrêté ce train de pensée. David et Bathsheba sont un autre exemple. 2 Samuel 11. David et Bathsheba. 2 Samuel 11. Verset 2. On voit le processus de la tentation. 2 Samuel, chapitre 11. Verset 2. Le soir. David se leva de son lit et monta sur le toit de la maison du roi, d'où il vit une femme qui se lavait. Et cette femme était très belle à voir. C'est donc ici qu'il aurait dû s'arrêter. Ne pas la regarder, aller ailleurs. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a donc vue. Il y avait là un désir, et il a continué à penser de la sorte. Et cela a commencé par des actions. Verset 3, David envoya à chercher la femme. L'un d'eux dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Héthien ?» C'était l'ami de David. David poursuit ainsi, David envoya des messagers et la prit. Elle vint sur lui, et il coucha avec elle. Elle se purifia de son impureté et retourna dans sa maison. La femme conçut et envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Finalement, David a conspiré pour tuer Uri. L'enfant en est mort. Toutes ces choses se sont produites parce que David a vu quelque chose, il a eu un train de pensée, une tentation. Il a dépassé la limite fixée par Dieu, à savoir ne pas désirer les femmes, ne pas convoiter la femme de son prochain, mais c'est ce modèle de tentation. Encore un. Acan à Jéricho. Allons à Josué 7 et au verset 20. C'est au moment où Israël entre dans la terre promise, et ils ont marché autour de la ville pendant 7 jours. Le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville en criant, et les murs se sont écroulés. Dieu était clairement avec eux. Ils savaient que Dieu était avec eux. Achan savait, nous le verrons, que Dieu était avec eux, parce qu'il avait été dans le désert et qu'il avait reçu la manne du ciel, qu'il mangeait la nourriture que Dieu leur donnait tous les jours. Pilier de feu et pilier de nuée. Il est très clair que Dieu travaillait avec eux, mais il a succombé à la tentation. Dieu dit à tout Israël de ne rien prendre à Jéricho. Ne prenez pas de trésor. Ne prenez rien. C'était la restriction, la limite que Dieu avait placée là. Mais remarquez comment Achan est tombé dans le péché. Josué 7 et verset 20, Achan répondit à Josué et dit, c'est-à-dire après avoir été découvert, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et j'ai agi ainsi. C'est ainsi que j'ai agi. J'ai vu parmi le butin un beau vêtement babylonien, 200 sicles d'argent, et une pièce d'or de 50 sicles, et je les ai convoités. Il les a vus, tout comme Ève, qui les a vus, les a convoités et s'est dit qu'elle lui plairait beaucoup. Alors je les ai pris, cette action. Et voici qu'ils sont cachés de la terre au milieu de ma tente, l'argent qui est sous elle. Il s'agit d'un processus de tentation qui vient du fait que l'on considère les limites de Dieu d'une manière incorrecte. Comme, oh, je veux cela. Et est-ce que c'est vraiment si mauvais? Au lieu de cela, les limites de Dieu sont des bénédictions et elles sont là pour une raison. Jacques 1 explique également le processus de la tentation. Tournons-nous vers Jacques 1 et le verset 13. Jacques 1, 13. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente aucun homme. Mais tout homme est tenté lorsqu'il est entraîné par sa propre convoitise et qu'il est séduit. La convoitise peut signifier le désir. Si la convoitise est souvent, avec la convoitise, nous pensons à la convoitise sexuelle, qui est un aspect de la chose, mais il faut la considérer comme un désir. Nous sommes attirés par nos propres désirs. Nous avons tous nos propres faiblesses et des choses que nous désirons davantage et qui sont en dehors de la voie de Dieu. Et nous devons savoir ce que c'est, lorsque nous examinons et comprenons le processus de la tentation. Mais nous sommes entraînés par nos propres désirs et attirés. Car lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, enfante la mort. Ainsi, ce désir, ces pensées et ce processus de pensée qui mène au péché, engendre le péché, et finalement la mort éternelle. Ainsi, frères, lorsque nous examinons ce processus de tentation, ces schémas de pensée qui mènent au péché, demandez-vous où je nourris des pensées que je devrais rejeter. Quels sont les endroits où j'ai des désirs? Nous pouvons tous nous poser cette question. Où ai-je un désir qui est en dehors de la voie de Dieu, qui dépasse certaines limites, qui est en dehors de ce que Dieu a ordonné? Une autre façon de voir les choses est de s'arrêter, et si vous pensez à quelque chose et que vous vous fixez dessus, que cela vous énerve et que vous êtes émotif, c'est probablement qu'il y a quelque chose à laquelle vous devriez prêter attention. Mais si votre ligne de pensée et de raisonnement, si vous pouvez en quelque sorte regarder à travers, et où cela va-t-il mener? Si la seule résolution de cette ligne de pensée et de raisonnement est le péché, vous devez vous arrêter. Mais il faut être capable de voir ces choses, d'apprendre et de grandir. Et lorsque nous commettons des erreurs, il est évident que nous pouvons nous adresser à Dieu et qu'il nous pardonnera. Nous pouvons nous repentir de ces choses. Mais nous devrions examiner le processus de tentation. Le comprendre, se connaître soi-même afin de pouvoir rejeter ses pensées, les écarter de notre chemin. Et lorsque nous les voyons, nous devons lutter. Passons à la deuxième épître aux Corinthiens. Lorsque nous voyons ses pensées, ses désirs et ses convoitises se manifester, Nous devons lutter. 2 Corinthiens 10. Nous commencerons au verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. Voici ce que nous devons faire lorsque nous voyons ces pensées ou ces désirs surgir. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car nos armes de combat ne sont ni charnelles, ni physiques, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses de l'esprit, les pensées. Abattre les imaginations, ces pensées, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, s'appuyer sur sa propre intelligence, suivre sa propre voie, faire ce que l'on veut plutôt que ce que Dieu dit, et ramener en captivité toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. Nous devons rendre ces pensées captives. Lorsque ces mauvaises pensées surgissent, nous luttons. Nous savons que Dieu est de notre côté. Nos armes sont spirituelles. Alors que nous examinons la tentation et le processus de tentation, voici quelques moyens de se prémunir contre cette tentation, en résumé, pour cette section. Reconnaissez le tout. Avec Ève, il y a eu une question. Oh, ne pouvez-vous pas manger de tous les arbres du jardin? Puis il y a eu une autre question. C'est comme, oh, tu ne vas pas mourir à coup sûr. Une autre pensée. Mais elle aurait pu l'arrêter dès le début. Tous les arbres du jardin, c'est idiot. Et la rejeter. Et s'appuyer sur la voix de Dieu plutôt que sur sa propre compréhension. Reconnaissez rapidement ces désirs et ces mauvais désirs qui surgissent dans notre vie. Remplacez ensuite ces pensées par la vérité de Dieu. Nous y reviendrons dans un instant, ainsi que sur d'autres moyens de le faire. Et priez pour avoir la force de résister. Nous devons comprendre le processus de la tentation. Satan a un sac à malice qu'il utilise encore et encore. Il les a utilisés dans le jardin, avec Caïn, avec Achan, avec David et Bathsabée, et il les utilise encore aujourd'hui. Nous pouvons savoir ce qu'il va nous proposer et le rejeter. Et nous appuyer sur Dieu et sur sa force. Frères et sœurs, les limites de Dieu sont des bénédictions. Et nous pouvons nous assurer de garder cet état d'esprit en nous souvenant de l'autre arbre au centre de nos vies. Nous parlions de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Mais au milieu du jardin se trouvait aussi l'arbre de vie. Et nous pensons à l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme à des frontières. L'arbre de vie représente le fait d'absorber et de recevoir l'Esprit de Dieu. En fin de compte, il représente le fait de recevoir la vie éternelle. Mais nous pouvons accéder à l'Esprit de Dieu. Il nous en donnera davantage. Pour nous permettre de faire tout ce dont nous parlions, de rejeter la tentation. Rejeter les mensonges de Satan. Ses mauvaises façons de penser. Cet arbre se trouvait également au milieu du jardin. Dans notre vie, nous pouvons penser que nous avons ces deux arbres. Ils sont au centre de notre vie. Pour tout ce que nous faisons dans notre vie, nous devrions pouvoir voir ces deux arbres. Il y a les limites, les choses que nous ne devrions pas faire, et les bénédictions qui découlent du fait de ne pas les faire. Et puis il y a l'arbre de vie, la voix de Dieu, et toutes les bénédictions qui en découlent également. Des choses que nous devrions faire. C'est ce que nous devrions nous représenter tout au long de notre parcours. Il peut être utile de se rappeler ces deux choses. Passons à Proverbe 3. Ces deux arbres nous offrent un choix. Proverbe 3. En nous souvenant de l'arbre de vie et en y puisant, nous devrions demander davantage de l'Esprit de Dieu. Proverbe 3 et 5. C'est ainsi que nous devrions vivre notre vie. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. C'est ce qui arrive quand on dépasse les limites de Dieu. Comme si tu ne savais pas de quoi tu parles, Dieu. J'ai ce qu'il faut. Ces restrictions, ces commandements. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos sentiers. Dieu nous guidera. Au verset 7, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Craignez l'Éternel, éloignez-vous du mal. C'est donc le choix que Dieu a placé devant nous et qui est illustré par ces deux arbres. Il s'agit de vivre dans la voie du don ou de vivre dans la voie de l'obtention. La voie de la préoccupation débordante. Ce que Dieu nous a dit de faire, en nous appuyant sur son intelligence. Ou la voie de l'obtention, en prenant pour nous ce que nous voulons et en nous appuyant sur ce que nous pensons être juste. Deutéronome 30. Examinons un peu plus en détail ce choix. Nous commencerons au verset 15. Deutéronome 30, 15. Là encore, il s'agit de l'ancien Israël. C'est Moïse qui parle ici. Mais comme c'était le cas pour l'ancien Israël, cela s'applique à nous, l'Israël spirituel. Deutéronome 30 et verset 15. Voici que j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est pourquoi je t'ai commandé aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, que tu aies une vie abondante et que tu puisses jouir de toutes les bénédictions dont Dieu nous comble. Manger de tous les arbres dont il nous a permis de manger. Et au verset 19. J'appelle le ciel et la terre à enregistrer aujourd'hui contre vous que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité vous viviez. Choisissez la vie. Nous devrions aller vers le Père et lui demander chaque jour davantage de son esprit. Être précis dans les choses dont nous avons besoin. Si vous voulez de la sagesse, soyez précis. Ne dites pas simplement, « Dieu, accorde-moi la sagesse. » Décomposez-la. Que recherchez-vous? Où voyez-vous des faiblesses en vous et que l'Esprit de Dieu peut vous aider à aplanir? Dieu peut construire son caractère en vous. Mais choisissez la vie. Choisis son esprit et son mode de vie. Verset 20. Pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car il est la vie et la durée des jours, pour demeurer dans le pays. Il s'agit d'une application pour l'ancien Israël. Mais pour que vous ayez la vie. Frères et sœurs, nous choisissons la vie lorsque nous alignons nos pensées, nos actions et nos priorités sur la voie de Dieu, lorsque nous demandons davantage de cet esprit. Et cela peut nous aider à garder un bon état d'esprit concernant les limites de Dieu, en nous rappelant quelles sont des bénédictions. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous refuse, ni aucune des mauvaises façons dont nous pouvons les considérer. Tournons-nous vers le 1er Jean 5. Dieu peut nous aider à garder cette façon correcte de voir les choses, de voir son mode de vie. 1er Jean 5, nous commencerons au verset 1. 1er Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et quiconque l'aime est aussi engendré par lui. À ceci nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, en nous concentrant particulièrement sur le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à faire ce que Dieu dit, à rester dans les limites qu'il a fixées, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pesants, ils ne sont pas, oh, Dieu m'a mis dans cette petite boîte minuscule. Non, c'est ainsi que Satan veut nous faire voir les choses et c'est faux. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est cet état d'esprit que nous devrions avoir. Et plus nous suivons la voie de Dieu, plus nous croyons et agissons selon sa vérité, plus nous comprenons que ses voies ne sont pas pénibles. Lorsque nous apprenons certaines choses, par exemple observer le jour du sabbat, du coucher du soleil au coucher du soleil, du vendredi au samedi, nous savons que Dieu l'a ordonné, et nous le faisons peut-être simplement parce que Dieu m'a dit de le faire et que je le fais. Vous avez peut-être entendu parler de certaines des bénédictions qui en découlent, mais avec le temps, vous commencez à comprendre que les êtres humains ont besoin de ce jour de repos. Ils ont besoin d'un jour où ils se débranchent, où ils peuvent se rapprocher de Dieu, et où ils commencent à voir tous ses avantages. Nous devrions faire de même pour toutes les parties du chemin de Dieu. Prêtez-y attention et, avec le temps, vous verrez ses avantages, vous pourrez agir en conséquence et ils vous ancreront. Et chaque fois que vous aurez une pensée ou que Satan mettra une pensée dans votre esprit, vous vous demanderez si c'est vraiment si mauvais que cela. Quel que soit le désir que vous avez, vous pouvez vous arrêter et dire, « Attendez, la voix de Dieu m'apporte tout ce bien, et cela s'arrête net. » Galates 5. Regardez l'arbre de vie, demandez plus d'esprit de Dieu et vivre à sa manière, et comment cela peut nous garder dans le bon état d'esprit pour voir les limites de Dieu correctement. Galates 5 et 16, verset 16, « Je vous dis de marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises, ces désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, en vous appuyant sur l'intelligence de Dieu et non sur la nôtre, vous n'êtes pas sous la loi, sous la peine de la loi, la mort éternelle. Les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont les choses que nous devrions éviter en dehors des limites de la voie de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la discorde, et nous passons en revue toutes ces choses. Les choses que nous devons éviter, la fin du verset 21, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu peut nous permettre de voir cela, de voir qu'il y a des implications internes à dépasser les limites de Dieu pour le péché et à faire de mauvaises choses. Verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ce sont les bonnes choses sur lesquelles nous devrions nous concentrer, la patience, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Lorsque nous faisons ces choses et que nous grandissons dans ces fruits de l'esprit, ces caractéristiques de Dieu, cela apporte plus de bénédictions dans nos vies lorsque nous faisons ces choses et que nous nous concentrons sur elles. Et cette abondance s'accroît de plus en plus et se propage aux autres. Colossiens 3. Colossiens 3 et 2. Veillez à ce que nous prenions chaque jour de l'arbre de vie, en demandant plus d'esprit de Dieu. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée dans Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais si nous gardons cet état d'esprit et si nous nous appuyons sur l'Esprit de Dieu, nous pouvons mortifier nos membres. Faites mourir les mauvaises choses de notre vie, qui sont sur la terre. Ces désirs et ces convoitises, l'impudicité, l'impureté, l'affection démesurée, la convoitise, qui est une idolâtrie. Frères et sœurs, nous devrions demander quotidiennement plus d'Esprit de Dieu. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais il est facile de l'oublier et de se laisser entraîner dans les voies de ce monde. Mettez-vous à genoux et demandez-le à Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit seulement pendant votre prière quotidienne principale. Vous pouvez demander à tout moment. Passons au psaume. Une autre façon de nous assurer que nous regardons l'arbre de vie et que nous choisissons cette voie, la voie de Dieu. Psaume 1 et verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des méchants. Il prend plaisir à la loi de Dieu. Il médite sa loi jour et nuit. Nous devrions considérer les limites de Dieu d'une manière positive. Elles sont bonnes. Les limites de Dieu apportent des bénédictions. Et méditez sur elles. Voyez ses avantages, ancrez-vous à eux. Plus vous savez qu'il y a une raison pour laquelle je ne devrais pas faire cela, et voici toutes ces raisons, voici tous les avantages qui découlent d'une vie à la manière de Dieu. Si vous pouvez voir tous ces avantages, cela changera votre façon de penser. Et lorsque ces tentations se présentent, elles peuvent sembler, parfois elles sont très difficiles, mais d'autres fois, vous pouvez simplement les repousser et dire non et les rejeter, et arrêter ce train de pensée qui peut vous conduire à l'égarement. Mais une façon de s'assurer que nous le faisons, de méditer sur la loi de Dieu, c'est de prier à ce sujet. Remerciez Dieu lorsque vous voyez ses avantages. Si vous allez à, si vous voulez une étude que vous pouvez creuser après ce message, le psaume 103 et toute la liste des bénédictions que David a énumérées. La liste est longue. C'était sa façon de faire. Il faisait une liste. Nous aussi, nous pouvons faire des listes. Mais dans le psaume 103, il s'agit de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. D'accord? Amusez-vous à creuser cela plus tard. Frères et sœurs, les limites de Dieu nous apportent des bénédictions. Tous les commandements de Dieu ne sont pas lourds ou pénibles comme nous l'avons entendu, mais ils apportent la paix et la joie, et finalement la vie éternelle. Lorsque nous regardons le jardin d'Éden avec Adam et Ève, il leur a donné tous les arbres du jardin. Il leur a donné tant de choses. Il leur a donné l'arbre de vie dont ils pouvaient manger. Il est vaste et abondant, et c'est le Dieu que nous servons. Et puis, il y avait un arbre dans ce jardin dont Adam et Ève ne pouvaient pas manger. Pour nous, lorsque nous regardons nos vies, et de manière proéminente dans nos vies aussi, il y a cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les limites que Dieu a imposées. Et l'arbre de vie. Assurons-nous d'avoir une vision correcte de ces deux arbres, mais surtout, comme nous le voyons aujourd'hui, des limites que Dieu nous a imposées. Ne vous permettez pas de les considérer comme pénibles ou comme un fardeau. Ne nous permettons pas de penser que Dieu nous cache quelque chose. Il le fait, mais c'est pour notre bien, car il n'y a rien de bon à sortir de la voie de Dieu et de ce qu'il nous a donné. Passons à l'Apocalypse 22 pour terminer. Parce que si nous considérons les limites de Dieu comme des bénédictions et que nous voyons toutes les bénédictions qui découlent de lui et que nous prenons quotidiennement de l'arbre de vie, cela a des implications internes que nous pouvons également garder à l'esprit. Apocalypse 22 et verset 14. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements. Frères et sœurs, considérons les limites de Dieu comme des bénédictions et respectons-les. Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, exemple ultime, la vie éternelle, et d'entrer par les portes de la ville. Frères et sœurs, veillons à garder cet état d'esprit correct lorsque nous voyons ces deux arbres dans nos vies. Demandons chaque jour plus d'esprit de Dieu afin de pouvoir garder l'esprit clair lorsque nous voyons ces tentations et ces mauvais schémas de pensée. Identifions-les et extirpons-les de notre vie. Les éliminer, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et éradiquer toute pensée erronée que nous pourrions avoir. Frères et sœurs, n'oublions jamais. Les limites de Dieu sont des bénédictions.